Je le disais tout à l'heure, la présentation d'un enfant, le baptême, ce sont des actes de la vie de l'Église. Le baptême, il est fondamental de comprendre ce qu'il signifie, de comprendre ce à quoi il engage. Nous croyons que la Bible est pour nous l'autorité suprême, et c'est tout naturellement uniquement sur la Bible, sur ce qu'elle nous enseigne, sur cette question du baptême, que nous tirerons un enseignement. Alors, tout d'abord, une première question. Quelle est l'origine du baptême? L'Ancien Testament ne nous parle pas du baptême comme d'un acte bien défini. Il y est question d'ablution, comme l'exigent les textes de la loi. Les Juifs se lavaient avec tout un cérémonial. Ainsi, dans le livre du Lévitique, dans le livre des Nombres, il nous est parlé de ce rituel. Dans le livre du Lévitique, nous lisons « Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera son poil, se lavera dans l'eau, et ainsi il sera pur. » Les Juifs se lavaient pour se débarrasser de toutes sortes de souillures souvent rituelles, nées de contact avec un cadavre, avec un malade, une personne, un objet. Et ils faisaient suite à cela des ablutions, voire des bains rituels. L'Ancien Testament nous parle de l'eau comme d'un symbole. Et c'est dans les textes le symbole de la purification. Ainsi, nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er, « Lavez-vous, purifiez-vous. » Ou dans le livre du prophète Zacharie, ces mots, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifié. » Le récit de la guérison de Naaman le Syrien en est une superbe illustration. Au temps de Jésus, par respect pour la tradition, les pharisiens pratiquent toutes sortes de bains rituels. Ils se lavent soigneusement les mains avant chaque repas. Et ils attribuent à tous ces bains, à tous ces actes, une valeur purificatrice. Les documents non bibliques de l'époque confirment ces pratiques. Ainsi, entre autres, dans ces écrits non bibliques, on découvre que les prosélytes, c'est-à-dire des croyants, mais d'origine païenne, donc des croyants non-juifs, et qui s'intéressaient à la foi juive, devaient passer par un bain rituel, et ce bain était tout à fait semblable au baptême. En fait, quand nous regardons ces textes, nous découvrons qu'il faut attendre. Il faut attendre la venue de Jean-Baptiste pour voir le baptême prendre une place importante dans la vie et dans les pratiques religieuses du peuple et d'Israël. Alors, que nous dit la Bible du baptême de Jean-Baptiste. Nous avons lu tout à l'heure l'histoire de Jean-Baptiste ou le fait qu'il baptisait. Et il nous faut de suite affirmer que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême chrétien. Plusieurs textes nous l'indiquent avec beaucoup de clarté. Et entre autres, il y a dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, une affirmation très forte de l'apôtre Paul qui s'adresse à un groupe d'Éphésiens. Au chapitre 19 et dans les versets 1 à 6, nous pouvons lire ceci. Paul leur dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Et ils répondirent « Le baptême de Jean ». Alors Paul dit « Jean ». Jean a baptisé du baptême de repentance. Et le texte poursuit en disant ceci « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Ce qui distingue, n'est-ce pas d'une manière claire, ces deux baptêmes que nous trouvons dans l'Écriture, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. Jean donc, Jean le Baptiste baptisé, nous disent les textes bibliques dans les Écritures, et il baptisait tous ceux qui acceptaient sa prédication. Matthieu, Marc, Luc nous rapportent l'histoire de Jean-Baptiste, et les trois évangélistes nous disent que Jean-Baptiste mettait toujours un accent particulier à sa prédication. Il parlait de la venue du Messie. Être baptisé par Jean-Baptiste signifiait donc publiquement cette attente de celui qui doit venir, de celui dont Jean-Baptiste n'est même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Avec des mots clairs et précis, Jean-Baptiste appelle chacun à reconnaître son indignité, à confesser son péché et à se repentir. À tous ceux qui viennent en foule, en masse, au Jourdain, il dit et répète « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cela signifie se détourner résolument du mal pour se tourner vers celui qui vient, vers Jésus. Se détourner de l'ignorance pour se tourner avec foi vers celui qui arrive, le Christ Jésus. Et les textes bibliques nous disent que l'acte qui accompagne cette repentance et cette attente de celui qui doit venir, c'est le baptême. Le baptême que la Bible appelle constamment le baptême de la repentance. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur le baptême de Jésus. Alors qu'il va commencer son ministère, il a autour de 30 ans, Jésus vient vers Jean-Baptiste et demande à Jean-Baptiste de le baptiser. Il y a là, dans ce geste, dans cet acte, quelque chose d'étonnant. Et Jean-Baptiste lui-même est surpris de cette demande. Et il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Alors Jésus fait taire les scrupules de Jean-Baptiste. « Laisse faire, dit-il, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Il faut le dire, le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance. Jésus n'avait pas à se repentir. Le baptême de Jésus n'est pas une adhésion comme disciple de Jean-Baptiste ou pour appartenir à une communauté quelconque. Le baptême de Jésus est avant tout révélation et proclamation. Révélation du Messie par la voix de Dieu lui-même et qui se fait entendre du ciel et qui fait entendre ces mots, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Désormais, avec la venue de Jésus, le baptême de repentance, le baptême de Jean-Baptiste, dans l'attente du Messie, n'a plus aucune raison d'être. Jésus est lui-même là, il va, nous disent les textes, il va baptiser et du Saint-Esprit. Alors, que nous disent les textes du baptême, au sujet du baptême, au temps de Jésus? Le texte de Jean 4, au verset 2, précise que Jésus ne pratiquait pas lui-même le baptême. Il n'est jamais dit, par exemple, que Jésus ait baptisé un de ses disciples, Pierre ou Jean ou Jacques ou André. Vous pouvez chercher tous les textes et vous découvrirez que Jésus n'a jamais baptisé. Même plus, quand Jésus utilise le mot baptême, c'est toujours dans le même sens. C'est seulement pour évoquer sa mort. Le baptême dont je dois être baptisé. Un seul texte, ce texte de Jean 4 que je citais il y a un instant, un texte qui se situe au début du ministère de Jésus, fait allusion à la pratique du baptême par les disciples. Après, il n'en est plus question. Vous pouvez prendre les textes des évangiles, l'un après l'autre, et vous découvrirez que dans le reste de l'évangile, il n'y a plus le baptême. Et cela, jusqu'à un moment précis, et ce moment précis, c'est celui de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que Jésus ordonne, donne l'ordre, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Ainsi, peu de temps avant d'être enlevé au ciel, le ressuscité est dit deux mots clairs et deux mots forts. Le premier est une promesse. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le deuxième est un ordre, baptisés parmi les nations, tous ceux qui deviendront mes disciples. Et c'est là que l'on découvre, en lisant les textes, que l'on découvre tout naturellement, après la Pentecôte, après que les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est là que l'on découvre que les apôtres obéissent à l'ordre du Maître pour la première fois. Vous pouvez rechercher vos textes et vous découvrirez Actes 2, 38, 2, 41. C'est à ce moment-là et qu'ils se mettent à pratiquer le baptême d'eau. La norme est en quelque sorte là. Baptême du Saint-Esprit, puis baptême d'eau. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, et ensuite le témoignage par un acte public. Alors, que nous enseigne le livre des Actes des Apôtres? Il est intéressant de noter, en lisant ce livre des Actes des Apôtres, que toujours, lorsqu'il est question de baptême, il est aussi question d'une conversion préalable. C'est la prédication de la bonne nouvelle, de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et qui amène l'homme à la repentance et à la foi. La Bible nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Il est question du Seigneur, de l'Esprit Saint qui vient habiter l'être humain. Paul, écrivant aux Corinthiens, leur dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Ainsi, les textes nous le disent avec force. La repentance, la foi en Jésus, amène une intervention de Dieu. Il vient habiter notre cœur par son esprit. Relisez le livre des Actes des Apôtres et vous découvrirez que les choses sont toujours ainsi. Quand vous lisez l'histoire des 3000 qui se convertissent à Jérusalem en acte 2, des Samaritains, de l'eunuque éthiopien, de Saul de Tarse, de Corneille d'Essien, des Éphésiens, on découvre constamment dans ces textes que des hommes ouvrent leur cœur à la grâce, au cadeau de Dieu. Ils ouvrent leur cœur dans un acte de repentance et de foi, et le Seigneur vient les habiter. Et alors, geste naturel, ils vont témoigner de ce qui s'est passé dans leur vie par cet acte public et qu'est le baptême. Quand on lit ces textes, on découvre que la seule condition imposée pour être baptisé était cette acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si tu crois, cela est possible, dit Philippe à l'Éthiopien. Il n'est pas question d'un certain niveau de vie spirituelle ou l'appartenance à un groupe particulier, mais si tu crois, Si Jésus est devenu celui qui habite ton être, alors cela est possible. Ajoutons encore qu'à la lecture du livre des Actes des Apôtres, nous trouvons qu'il y a une formule qui est prononcée avant le baptême. Il y a une formule trinitaire indiquée par Jésus de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est comme si les apôtres simplifient cette formule et ils vont baptiser au nom de Jésus-Christ ou au nom du Seigneur Jésus. La formule n'a rien de magique. Nous allons la prononcer tout à l'heure. Elle n'a rien de magique. Mais j'aimerais vous dire que le geste est fait par délégation. Le geste est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et donc, cet acte qui est fait par délégation n'est pas un acte ordinaire, mais c'est un acte sérieux. Il n'est pas fait au nom de l'Église, mais il est fait au nom de Dieu lui-même. À mon sens, la forme ne laisse aucun doute. Constamment dans les textes, nous avons un verbe grec qui signifie plonger, immerger. Les textes le confirment. Pour être baptisé, dans le livre des Actes des Apôtres, on entre dans l'eau et on sort de l'eau. Le baptême était donc toujours une immersion au sens plein du terme. Alors un mot encore. Que nous disent les épîtres? Alors j'ai été un petit peu long. Je vais dire ou retenir deux enseignements. Le premier, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, dans les versets 3 et 4, où il est dit ceci, Jonathan. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ et ressuscité d'entre les morts, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre nous fait pénétrer un peu plus loin dans la signification du baptême. Il faut voir ici le baptême d'eau comme une sorte d'illustration publique d'une œuvre spirituelle qui a déjà eu lieu dans la vie de l'homme. L'acte de plonger dans l'eau est décrit comme un ensevelissement. L'acte de sortir de l'eau comme une sorte de résurrection. Symboliquement, cela signifie qu'au moment de ma conversion, je suis mort à mon ancienne vie pour vivre une nouvelle forme de vie, celle de la foi en Jésus-Christ, celle de l'union avec Jésus-Christ, celle d'une marche en nouveauté de vie. Le baptême d'eau est en fait la déclaration publique de ce qui s'est passé dans une vie. Le deuxième enseignement, nous le trouvons dans 1 Pierre 3, 21. Ce texte nous donne un dernier éclairage. Il nous dit, cette eau, l'eau du déluge, était un signe du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ce texte de Pierre nous dit que le baptême est loin d'être une simple cérémonie, qu'il est un acte d'engagement d'une vie que nous voulons pour Dieu. C'est donc ce que tu vas nous déclarer, Jonathan. que Jésus est devenu ton sauveur personnel et que tu t'engages à une vie pour lui. Tu vas nous déclarer que ton désir, c'est de plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu. C'est le sens de ce que nous allons vivre maintenant.